Mon propos va s'articuler autour de la gestion des matières résiduelles, en fait les déchets, on va dire. La gestion des matières résiduelles, c'est un terme, je crois, un petit peu québécois pour parler pompeusement de nos déchets. Pour lutter contre les changements climatiques avec une question d'éducation en point d'interrogation. Pourquoi un point d'interrogation plutôt qu'une affirmation? Il s'agit d'examiner quels sont les fondements de l'éducation qui peuvent être proposés, mais aussi souligne par la même occasion que l'éducation, si elle peut être un incontournable pour générer un changement, elle ne peut sans doute être déployée seule. Une éducation même transformatoire, je vous dirais, qui rend le pouvoir aux populations, devrait être accompagnée de politiques fortes pour inciter les autres acteurs de la société, dont le monde économique, à revoir les modalités de production. Je peux donner comme exemple celui de l'obsolescence programmée, celui de la production de biens dont on n'intègre pas le coût total de son cycle de vie, mais aussi la production de déchets, de produits, du berceau au tombeau, alors qu'on devrait peut-être penser du berceau au berceau dans une optique d'économie circulaire. J'avoue que c'est un mot buzz actuellement pour les nouveaux programmes en environnement chez nous à l'Université de Sherbrooke. Donc la gestion de nos déchets est depuis plusieurs décennies associée à un nouvel enjeu qui va au-delà de la prévention et du tri. Une fois le déchet produit, elle est aujourd'hui liée au changement climatique et c'est dans cette perspective-là que j'associe les deux problématiques. Le plan de ma présentation est un plan assez simple. Il vise à présenter comment, au sein de problématiques environnementales, écologiques et sociales, une recherche peut proposer des solutions qui sollicitent des adultes à devenir des acteurs de changement dans leur milieu, car cultiver l'espoir et susciter le pouvoir agir des adultes sont des alternatives à ce que j'appelle la posture de l'autruche. J'aime bien l'expression belge qui dit la production de crasse. Alors, on produit des crasses en tout genre, et que selon Rochet et Ballet, en fait, c'est un problème hérité de l'ère industrielle, même si lorsqu'on regarde l'histoire des déchets, en fait, dès qu'il y a eu un petit peu sédentarisation des populations, cette question-là, dès l'Antiquité, s'est posée de l'élimination de nos rejets. Ce qui pose un défi aujourd'hui, c'est une augmentation vertigineuse de la quantité de déchets et de leur diversité, volume considérable, non-biodégradabilité, excusez-moi, toxicité et durée de vie. Je suis allée voir un petit peu temps de dégradation. Je cherchais le cas typique du mégot de cigarette et finalement, j'étais quand même plutôt rassurée. Je me suis dit 5 ans. Vous avez la bouteille de verre qui met 4000 ans, ce qui fait qu'on pourrait considérer qu'au-delà de l'échelle de temps humaine, c'est quand même un temps très important. Autre impact sociaux et écologiques des déchets, des risques sanitaires, certes, la perte d'attractivité de certains cadres de vie, et plus pour certains que d'autres, des nuisances visuelles, des pollutions de l'environnement et dégradations écologiques. Je vous parle des décharges avec leur lixivia. C'est sans doute pas étranger pour vous dans la formation que vous avez vécue. Et la production de gaz à effet de serre. L'incinération, qui visiblement est une alternative très développée en France et en Europe par rapport au Québec, qui génère des gaz acidifiants, des particules polluantes, etc. Et l'eutrophisation avec des polluants chimiques. Mais aussi l'ingestion par les animaux de toutes sortes de choses. Et pour préparer cet exposé, je suis allée regarder en version libre, je vous invite à le regarder, Midway, Albatros, d'un auteur qui, sur l'île de Midway, dans l'archipel hawaïen, est un repère pour les albatros. Et on voit qu'à tous les stades de leur développement, ils ingèrent des particules plastiques qui, véritablement, les tuent. Les tuent au stade où ils sont bébés, les tuent lorsqu'ils sont matures et sur le point de partir en mer, mais ils n'arrivent pas à régurgiter ce que les parents leur ont donné comme alimentation parce qu'il y a des morceaux de plastique et qui les tuent au bout du compte parce qu'ils sont blessés. La question des déchets aussi, c'est un refus social et politique de cette question. Bon, on connaît le pas dans ma cour, not in my backyard, mais on connaît aussi pas au moment de mes élections, de mon année d'élection. On va essayer d'éviter d'en parler. Et c'est ce qu'on vit actuellement, nous, au Québec, avec une élection fédérale. Aussi, quand je parle d'impacts sociaux, c'est qu'en fait, on parle d'injustice environnementale. La pollution et les pollutions associées aux déchets affectent souvent les plus pauvres qui polluent le moins, contrairement aux idées reçues. Bon, Hervé Kempf a écrit « C'est riche qui pollue la planète », mais l'extraction des ressources dans des conditions extrêmes de certains minerais se fait par des communautés qui sont pauvres pour une minorité solvable. Les personnes pauvres vivent le plus souvent sous l'effet des pollutions engendrées par nos déchets. On ne choisit pas où on vit, mais il y a aussi, par exemple, on vit sous le vent des incinérateurs, sous le vent des raffineries. Il y a aussi l'idée, au niveau social, qu'il y a une difficulté à faire la part entre nos besoins réels qui sont à combler et nos besoins factices, donc faire la différence entre la valeur d'usage versus la valeur d'image. Tout à l'heure, tu parlais du téléphone cellulaire et je pense qu'il y a cette dimension-là qui est très forte. On est quand même pauvre, mais on a son cellulaire. Des emballages de plus en plus complexes pour, je dirais, emballant pour vendre. Vous achetez un petit cellulaire et vous avez une boîte qui fait 4 ou 5 fois le volume avec toutes sortes de cartons et de multicouches très, très difficiles à recycler. Alors, quel aussi, au niveau social, développement privilégié pour assurer la survie du vivant ? Font-ils continuer de laisser le champ libre au néolibéralisme ou à ce que j'appelle un capitalisme débridé ? Ou faut-il repenser d'autres alternatives qu'on voit naître ça et là à travers le monde, d'éco-développement, de buen vivir ou de décroissance avec certains parlent d'austérité joyeuse. Au Québec, vous allez peut-être vous comparer et vous dire que finalement vous êtes moins mal lotis que nous, mais nous avons un plan d'action qui n'a toujours pas été mis à jour, qui date de 1995 sur une meilleure gestion de nos déchets. Mettre un terme au gaspillage des ressources, on pourrait croire que ça était un peu vétuste, mais on en est encore là. Contribuer maintenant à l'atteinte du plan d'action sur les changements climatiques, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un lien direct entre les deux. Et responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Donc ce plan prévoyait, d'ici 2015, de ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, donc baisser de 110 kg par habitant par rapport à 2008, recycler 70% du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal, et recycler à 60% les matières organiques putrescibles, donc tout ce qui est alimentaire. On est encore loin du compte, malgré la mise en place de tri sélectif à 3 voies dans certaines municipalités, mais ce n'est pas généralisé. Donc, à cette problématique de production des déchets, on a vu voir apparaître que les déchets étaient producteurs de gaz à effet de serre, notamment dans les décharges avec un certain nombre de pourcentages contribuant donc au changement climatique. Dans le cadre des projets qu'on a développés, c'est sûr que bon, on a documenté les faits et même si on a quelques encore climato-sceptiques existants, bon, le GIEC, je pense, fait force de loi en disant bon, l'homme a une influence, c'est sûr, sur le système climatique. Les manifestations présentes et futures sont annoncées et décrites, réchauffement de l'atmosphère, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est encore très peu perçu de la part des citoyens. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, ça a une dimension un petit peu immatérielle. Le changement climatique est difficile à cerner et je vais y revenir plus loin. En plus d'être un problème écologique, le changement climatique soulève des enjeux sociaux, santé humaine, agriculture, migration des populations. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce soit dans l'endroit où on pose nos déchets ou dans l'endroit où les phénomènes climatiques extrêmes ont lieu, ben les risques liés à l'évolution du climat sont inégalement répartis. Les populations et les communautés défavorisées de tous les pays sont les plus affectées. Injustice et inégalité climatique vont de pair. Catherine Larère parlait de trois dimensions aux inégalités face au changement climatique. Elle nous disait ce que je trouvais intéressant pour pouvoir justement différencier un peu qui fait quoi en la matière, c'est qu'il y a des inégalités dans la contribution au changement climatique, des inégalités dans les impacts de ce changement climatique et des inégalités dans la façon de se répartir les charges à consentir pour y faire face. Et c'est là où le protocole de Kyoto a achoppé et où encore d'autres discussions achoppent, c'est qu'on ne veut pas se répartir quelque part la tâche qui reste à combler. Certains diront, les émissions qui se font dans certains pays sont des émissions de subsistance, d'autres ont des émissions de luxe. D'autres diront, c'est le passé, vous avez pollué par le passé, donc vous devez payer aujourd'hui. Et les pays émergents disent que c'est un frein à leur propre développement. C'est là où, finalement, les prises de conscience doivent se faire. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous dire où est-ce qu'on est en Amérique du Nord. Bon, vous voyez un petit peu la carte du Canada qui désigne en blanc, on est au nord finalement des États-Unis. Le Québec est à l'est et quand on regarde l'Estrie, elle est au sud-est du Québec. Donc, ce que je vous montre un petit peu ici. Qu'est-ce qui se passe chez nous et qui, pour l'instant, arrive de manière insidieuse et qui mérite qu'on en discute avec les populations locales? C'est que oui, on a des pluies de plus en plus extrêmes et des inondations qui ont un impact sur les infrastructures. Nous, on connaît ce qu'on appelle le nid de poule au printemps, c'est-à-dire la chaussée qui se défonce et qui crée toutes sortes de problématiques routières, notamment dans l'évitement du nid de poule. Mais actuellement, on a une dégradation importante des voies routière à cause des alternatives entre 10 degrés et moins 30 en plein hiver. Donc vous comprenez que ce sont des changements drastiques qui font mal. On a une vulnérabilité des secteurs de la foresterie et de l'agriculture à cause de ces changements extrêmes. Un tourisme de plein air qui est perturbé. Bon, le Québec est quand même une terre touristique. En Estrie, nous avons des montagnes et de la neige. La neige, on n'en manque pas. Le problème, c'est que le dégel fait que les stations d'hiver, les stations de ski ont quelques petits soucis. Et en été, l'été est court actuellement avec des sécheresses et des vagues de chaleur extrêmes. Je vous dis bien extrêmes. Donc on attend l'été, mais quand l'été est arrivé, on attend l'hiver. Donc, selon Larère, bien que le changement climatique engendre une élévation des températures moyennes, d'un point de vue local, elle dit les impacts sont distincts. Ce qui revient à parler des inégalités en matière d'impact, soulevant aussi un enjeu éthique, du fait même que ce sont les personnes ayant non seulement le moins contribué à l'augmentation des températures sur la planète et la plupart du temps qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus touchées par les effets locaux. Ouragans, inondations, tornades, et qui sont dans l'impossibilité de s'adapter ou de quitter les endroits. En Estrie, malgré les petites villes, nous avons des îlots de chaleur du fait de l'absence de végétation en ville, et ce sont les populations les plus pauvres qui habitent ces habitations sans climatiseur. Alors que la réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre est un enjeu planétaire, ce qui pose aussi question d'un point de vue éthique, c'est que le regroupement des nationales, des conseils régionaux en environnement et même le consortium Ouranos qui s'intéresse au changement climatique au Québec nous dit que la gestion des risques relève d'une appropriation locale. Alors que c'est un phénomène planétaire, on dit aux populations, c'est à vous de vous en occuper pour pouvoir faire face à la situation. Donc, il y a un phénomène d'hyper-responsabilisation des personnes qui, finalement, n'ont pas contribué au phénomène ou qui sont le plus durement touchées par le phénomène. En matière d'éducation, il y a une double problématique. C'est sûr qu'il y a la problématique de l'éducation des personnes, et des adultes en particulier, qui gèrent les ménages à la gestion de leurs déchets. Et si on regarde ça d'un point de vue un petit peu critique, on se limite beaucoup à l'éducation aux 3 RV, sachant que le réduire passe souvent à la trappe, donc dans l'idée de prévenir la production de déchets. On est beaucoup dans le réemploi, le recyclage et la valorisation. Et c'est une éducation, donc, comme je vous le disais, où on ne remet pas en cause finalement la surconsommation ou la consommation. Et c'est aussi une éducation qui privilégie beaucoup d'habiletés de gestion environnementale ou d'habiletés un peu d'éco-gestes, sans qu'on demande aux citoyens de trouver un sens au tri de ces matières résiduelles dans les ménages. Donc, on a une problématique au Québec, c'est qu'en fait, on a une augmentation faramineuse de la quantité de déchets produits et que 85% de ces déchets pourraient être réutilisés, recyclés et compostés, mais arrivent directement dans la poubelle. La moitié, en fait, seulement en est valorisée. Alors, réduire serait l'idéal. En faisant une éducation à la consommation et à revoir nos pratiques de consommation et réemployer, bon, réutiliser certes, mais pour soi ou donner au suivant, recycler, oui, mais on voit que c'est une affaire souvent de compagnie et non, de citoyens, et la valorisation par le compostage en milieu urbain très dense est très peu développée. On a aussi, ce qu'on constate chez nous, un cadre réglementaire insuffisant, c'est sans doute la même chose en France, une faible logique aussi d'engagement des acteurs dans les processus d'élaboration des mesures de prévention, et des emballages difficilement recyclables avec des multicouches qui sont mis en évidence. Donc, malgré la mise en place de programmes d'information, de sensibilisation et d'éducation, on s'aperçoit que la réduction des déchets des ménages est encore faible. Si j'y vais maintenant du côté des changements climatiques, il y a diverses recherches qui se sont attachés à cerner les représentations sociales des personnes, des adultes, relativement au changement climatique, et les résultats nous aident à comprendre comment ces personnes intègrent et comprennent le changement climatique. Comment elles l'appréhendent, donc ça c'est la comprendre, c'est d'un point de vue cognitif, mais comment elles l'appréhendent affectivement, et comment elles affrontent et agissent face à ce problème, dans la dimension plus pragmatique. Parmi les résultats, qu'est-ce qu'on constate de ma collègue notamment Diane Pruneau, c'est que les concepts environnementaux et météorologiques complexes qui sous-tendent les changements climatiques ne sont pas tous compris des citoyens. Il y a une énorme confusion. Le changement climatique est difficile à percevoir, différé en partie dans le temps et ubiquiste dans l'espace, ce qui fait qu'on lui dit « c'est pas chez nous que ça se passe ». Les impacts du changement climatique sont peu connus par rapport aux causes. Les citoyens ont en général peu conscience de la gravité du phénomène dans un futur proche et de son irréversibilité. Et ils attribuent la responsabilité du changement climatique aux autres, en disant « c'est pas moi, c'est mon voisin ». En ayant fait des groupes de discussion avec des adultes là-dessus, on s'apercevait que ce soit en matière de déchets ou de changement climatique, la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité, même petite, c'est très, très difficile. Donc, on est dans la négation, en fait, de ça. Et autre dimension aussi, c'est que plusieurs adultes nous ont dit que le phénomène n'existe pas ou on a des propos très, très contradictoires à travers les médias. Lorsqu'on sait qu'au Québec, on a quand même 1 million de personnes qui ne sont pas à alphabète fonctionnel, c'est-à-dire qui écoutent et regardent la télé plutôt qu'elles ne lisent des choses un petit peu plus en profondeur, les médias ont un fort impact sur leur compréhension de la situation et tempèrent leurs inquiétudes. Et aussi, ils nous disent que le changement climatique n'est pas une priorité et ça a comme impact, en fait, un très faible engagement à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous disent les experts aussi par rapport au changement climatique, c'est qu'il faudrait changer des modes de vie, changer des comportements. Il faudrait développer des mesures d'adaptation au changement climatique, donc faire avec. Il faudrait développer des compétences chez les personnes, donc des savoirs, des savoir-faire, des valeurs qui pourraient se matérialiser dans un pouvoir agir. Mais il y a peu de moyens développés pour l'éducation au changement climatique. Ça reste vraiment un parent pauvre de l'éducation dans le champ de l'environnement. Donc, Mera Cartea, qui est un Espagnol, nous dit que c'est une incohérence vis-à-vis l'urgence décriée. On dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais très peu d'investissements en la matière. Les adultes ne sont pas nécessairement non plus ciblés dans les pratiques d'éducation relatives au changement climatique. C'est valable en général pour l'éducation à l'environnement. Arnaud nous montrait une photo où on voit des jeunes enfants autour d'un bac de recyclage. Alors, c'est le public le plus particulièrement ciblé, les jeunes et les adolescents, qui sont de moins en moins, captifs. Par contre, les adultes qui prennent les décisions au quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, sont vraiment délaissés pour compte en matière d'éducation. C'est sûr que c'est un public peu captif et il faut donc aller voir où les rejoindre. Et c'est là, dans le cadre de nos projets, où on essaie de les rejoindre dans le cadre d'organisations, d'associations qu'ils fréquentent pour toutes sortes de raisons. Et le projet que nous avons développé, et c'est là où j'en viens à parler plus concrètement en fait, d'un projet travaillé avec une association, en fait deux associations, c'est qu'on a travaillé à développer un scénario d'éducation au changement climatique avec des adultes dans un contexte d'éducation non formelle, des adultes captifs d'un organisme parce que venus chercher à rehausser leurs compétences de base en français, en mathématiques, en informatique. Des personnes qui sont marginalisées et qui cherchent à réintégrer une forme de vie sociale et ou professionnelle. Et pourquoi je fais le lien avec les déchets, c'est qu'en fait, parmi les thèmes, les dimensions travaillées avec ces adultes, on a à la fois travaillé l'éducation à la gestion des matières résiduelles dans une perspective de changement climatique, mais aussi une éducation à une consommation alimentaire différente, avec une consommation essentiellement locale dans la mesure du possible. Bon, vous imaginez qu'au Québec, quand il fait très froid l'hiver, c'est pas facile à cultiver son jardin. Donc, on a quand même des contraintes inhérentes au climat. Et dans le cadre des pratiques qu'on développe, oui, il y a des dimensions individuelles qu'on essaye de développer, mais on ne peut faire fi de la dimension collective de cette éducation, dans la mesure où Darlene Clover, qui est une éducatrice en environnement qui s'intéresse aux adultes depuis plus de 30 ans, elle nous dit qu'on a tellement axé ça sur les changements individuels alors qu'il n'y a pas eu de changement à l'échelle de la planète en termes de virage, de comportement et de choix de société, qu'elle dit que si jamais l'agir individuel était suffisant, on le saurait depuis longtemps. Donc, nos partenaires, on appelle ça des organismes communautaires, mais ce sont des gens, sont des associations, une en environnement et une en éducation populaire, qui ont travaillé avec nous. Et quand on travaille avec des organismes comme ça, la recherche nécessite des compromis dans un contexte où on est dans une intégration interdisciplinaire. On parle de changement climatique, on parle d'éducation aux déchets, donc aux 3RV, et on parle d'apprentissage de compétences de base. Et tout ça doit être intégré de manière judicieuse pour ne pas perdre notre public. Donc, quel est un petit peu le cadre théorique de ce projet? Bon, je vous ai dit qu'on était, c'est sûr, la dimension littératie, j'en parlerai très peu parce que ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, mais je vais vous parler plus d'éducation à l'environnement des adultes et d'éducation au changement climatique pour voir ce qui se dit à ce propos-là et qui a fondé un petit peu notre travail. Quand on parle d'éducation à l'environnement, il faut se dire que ce n'est pas une éducation qui est... il n'y a pas une éducation à l'environnement, mais plusieurs. C'est un monde très diversifié. On pourrait parler d'éducation par l'environnement, pour l'environnement, à l'environnement, au sujet de l'environnement. Le choix que je fais est un choix dicté un petit peu par la personne avec qui j'ai fait ma thèse il y a quelques années. On parle d'une éducation à la relation à l'environnement des personnes et des sociétés. Pourquoi ? Dans quelle perspective ? Dans une perspective de rendre plus harmonieux ce réseau de relations et donc d'améliorer la qualité de vie et d'être des populations et du vivant en général. Et comme Clover et plusieurs le suggèrent, en fait, la perspective qui est adoptée ici est une perspective qui est assez radicale. Elle répondrait à la nécessité d'une transformation des visions du monde et des modes d'agir des personnes et des groupes sociaux, contrairement à des propositions qui sont plus néolibérales ou plus behavioristes, qui ne remettent pas en cause finalement les fondements de notre société, qui nécessitent un petit peu de réflexion. Et la dimension radicale, vous ne me voyez pas avec mes pancartes et mes cocktails Molotov, mais Paulo Freire avait une façon de désigner la radicalisation en disant que c'était un acte positif, parce qu'essentiellement critique. Il suppose jugement et affectivité, humilité et dialogue. On est donc vraiment dans la perspective de développer et de déconstruire en fait des présupposés de nos sociétés qui sont à la base en fait de notre fonctionnement. La proposition de l'éducation à l'environnement que j'ai développée ces dernières années, c'est sûr qu'elle a été basée sur une recherche et on s'est amusé à faire un cadre théorique là-dessus pendant 3-4 années. Et elle nous a permis de mettre en évidence que l'éducation à l'environnement, quand on s'intéresse aux adultes, elle relève de diverses... apport. Oui, l'éducation à l'environnement, mais aussi, en fait, elle vient de l'éducation populaire, de l'éducation des adultes, l'éducation par les arts, la justice environnementale, l'écoféminisme. Donc, on voit qu'on a tout un tas de champs contributifs à l'éducation à l'environnement lorsqu'on parle des adultes. L'éducation à l'environnement a certains objectifs, dont celui de construire une démocratie participative et écologique, engager les citoyens dans la transformation de la société. Et on a diverses approches aussi éducatives. Je passe. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à l'éducation au changement climatique, et c'est là où je vous parlerai de quelque chose qui me questionne, c'est qu'on met en évidence qu'il y a diverses dimensions contributives, soit l'éducation à l'environnement ou soit l'éducation au changement climatique nous demande aux populations de s'adapter, soit on leur demande de développer des mesures d'atténuation, ou soit on leur demande d'aller vers plus de résilience socio-écologique. Et là, on entre dans des domaines qui me sont moins connus, mais la gestion du risque, communication, perception du risque, etc. Alors, il y a deux types d'éducation au changement climatique. Il y en a un qui vise à développer les compétences citoyennes à s'adapter au changement. Selon Diane Pruneau et plusieurs autres qui sont du Nouveau-Brunswick, ça signifie se préparer et réagir à des événements inattendus et locaux, nouveaux, et développer un petit peu donc une résilience au changement climatique, capacité donc d'absorber des chocs qui peuvent aller des grandes marées à des catastrophes comme des épisodes longs de chaleur où il y a des grandes mortalités. Une autre version de l'éducation au changement climatique a pour finalité la mise en action des personnes sur des choix d'atténuation du changement climatique. Et là, on s'inscrit dans une perspective plus radicale, c'est qu'on dit, à la base, il faut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Avec les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, on a développé ce qu'on appelle une recherche-intervention basée sur la méthodologie de la recherche-développement. La recherche-intervention, je ne sais pas si c'est la même chose en France qu'au Québec, mais on a tendance à dévaloriser les recherches qui sont faites avec des partenaires locaux. Et aussi parce que il y a beaucoup de compromis. Il y a beaucoup de compromis à faire lorsqu'on travaille avec des acteurs du milieu. On ne peut pas aller selon une logique top-down. Il y a lieu de reconnaître les expertises mutuelles. Et donc, on développe des méthodologies qui tentent quand même d'avoir une certaine rigueur dans la manière de fonctionner. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a développé un scénario éducatif d'éducation au changement climatique avec des personnes peu scolarisées. Et pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait, non seulement on a renseigné le processus, donc à travers de l'observation participante, mais on a aussi demandé aux adultes de remplir un journal de bord au quotidien, de remplir un questionnaire sociodémographique dont je vous parlerai juste après. On a vérifié leur satisfaction à participer parce que c'est un projet que nous avons développé sur la moitié d'une année. Donc, nous avons regardé un petit peu comment ils avaient apprécié ce processus. Bon, on peut dire qu'ils n'ont pas disparu de la circulation, donc le groupe a été maintenu. Donc, on peut voir ça comme positif. Mais on peut aussi voir quels sont les apprentissages qu'ils ont réalisés au cours de ce projet. Donc, nos adultes, on avait 14 participants pour expérimenter tout ça, plus de femmes que d'hommes, des personnes qui avaient majoritairement en haut de 35 ans, un niveau de scolarité très bas. Ce que je veux dire par là, première année de collège, deuxième année de collège, ou des gens qui ont été placés dans des classes spéciales parce qu'ils avaient des défis d'apprentissage. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait la filière du collège comme on retrouve en France, mais en raison de leurs difficultés, des difficultés rencontrées, ils ont très vite été placés dans ce qu'on appelle des cheminements particuliers. Donc, ils ont un très faible niveau d'éducation en français, en mathématiques. Et comme les compétences ont souvent été peu mobilisées au cours de leur vie adulte, à 35 ou 36 ans, on voit qu'il faut recommencer à la base pour le lire, l'écrire et les calculs de base. Et les personnes qui ont travaillé avec nous avaient un projet de retour aux études à moyen terme en allant passer des tests d'équivalence pour pouvoir aller dans des formations professionnelles, à visée professionnalisante, mais quand même des niveaux équivalents CAP, BEP, comme on pourrait retrouver en France. Alors, en général, c'est sûr qu'on avait adopté un questionnaire assez simple pour pouvoir, on avait les bonhommes sourire, etc., pour ceux qui écrivaient le moins possible. Et on s'est aperçu que ça avait été, non seulement nous n'avons pas eu beaucoup d'attrition dans les participants, mais que on avait eu une très belle réception de ce projet-là, avec des commentaires comme « on a fait de l'environnement, mais on n'a pas fait l'apprentissage des compétences de base ». Alors, ou alors, on a fait du français, mais on n'a pas parlé d'environnement. Il y avait une difficulté à percevoir l'intégration qu'on avait fait dans les activités. Donc ça, c'était peut-être positif de notre point de vue, parce qu'on voyait que l'idée de faire, parce que les pratiques de formation étaient parfois assez traditionnelles dans le groupe où on était. On parlait de dictée, de vocabulaire, d'appropriation de mots. Et on n'a pas fait de français aujourd'hui, alors qu'on avait développé tout un climat. Qu'est-ce qu'un albédo, qu'est-ce que le climat, la température, on avait fait des expériences pour voir l'effet de serre, qui est un phénomène naturel. Bon, oh, on n'a pas fait de français aujourd'hui, alors qu'ils avaient développé un vocabulaire très, très important sur, des éléments de tous les jours, juste pour écouter Madame Météo aux informations du soir. Et on a aussi posé des questions sur... on avait observé un petit peu ce qui se passait dans les groupes. Alors, qu'est-ce qu'on a rencontré comme élément intéressant? En observant chacune des séances, on voyait qu'il fallait, malgré l'effet de groupe, travailler beaucoup individuellement pour accompagner les personnes à ne pas lâcher. Donc, faire du renforcement positif individuel, les accompagner lorsqu'ils avaient des difficultés. Il fallait beaucoup varier le matériel d'apprentissage et il fallait beaucoup valoriser leur savoir d'expérience. Et c'est quelque chose qu'on peut dire, ça tombe sur le bon sens, mais souvent, les personnes en matière d'éducation à l'environnement arrivent comme des expertes et oublient que les gens qui vivent dans certains milieux, lorsqu'on parle, on va faire un projet pour peut-être justement changer la situation de gestion des déchets chez vous, bon, en fait, ils sont porteurs de savoir tacite, ils sont porteurs de savoir d'expérience pour savoir qui fait quoi dans le quartier et comment ça se passe au niveau des ordures. Donc, on oublie un petit peu qu'ils doivent d'abord être écoutés avant de développer un projet. Les défis rencontrés, la difficulté à voir des choses plus abstraites, les tableaux, les graphiques, le changement climatique, malgré finalement, au bout du compte, une belle appropriation de ce que c'était, on a vu que ça nécessitait de remettre beaucoup, beaucoup de fois la question sur la table parce qu'on avait des assimilations à la pollution, la couche d'ozone. On voyait qu'avec entre ce qu'ils entendaient et ce qu'on disait, ils avaient du mal à comprendre le phénomène et à rejeter aussi cette responsabilité sur les instances gouvernementales avec un certain découragement et beaucoup de fatalisme. On parle souvent d'un niveau de conscience naïve, c'est-à-dire, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Et à mon niveau, je ne fais rien faire parce que tu comprends, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent, je marche, je fais du vélo. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, à mon niveau? Ce qui n'est pas faux non plus. Et on avait aussi un défi de maintenir la motivation selon les différents âges représentés. On s'aperçoit dans les groupes d'éducation des adultes que l'effet intergénérationnel n'est pas toujours facile. Parfois, il peut être intéressant dans la transmission d'expériences ou de savoir-faire, mais ça peut aussi donner lieu à de très gros conflits, conflits de génération qui n'ont pas la même motivation à se pencher sur certaines problématiques ou n'ont pas la capacité à s'arrêter. Je pense aux jeunes générations et leurs cellulaires très, très vite déconcentrés et qui se mettent à faire autre chose pendant qu'on discute de certains enjeux. Malheureusement, je ne caricature pas. Alors, quels sont les apprentissages qu'ils ont faits? On avait fait un petit peu un questionnaire avant et après. On s'est aperçu que, bon, oui, effectivement, des apprentissages avaient été faits entre avant et après leur participation au projet. Une nette amélioration de la compréhension du phénomène du changement climatique, une certaine augmentation des savoirs sur ce que sont les changements climatiques. Ils savent quelles sont les sources des émissions de gaz à effet de serre, des actions qu'ils peuvent entreprendre à leur échelle pour limiter les gaz à effet de serre. Donc, on voyait qu'on avait une certaine levée des obstacles cognitifs, mais aussi pragmatiques. Toujours en termes de savoir-faire, on les avait questionnés sur les dimensions d'énergie, d'alimentation, de transport et de déchets qui étaient les quatre aspects à travers lesquels nous traitions les changements climatiques. On a vu qu'il y avait des apprentissages de fait, ça c'est certain, et qu'au niveau des valeurs et du ressenti, il y avait une certaine évolution. Il nous disait « j'ai aujourd'hui un plus grand intérêt sur cette question environnementale, j'ai un rôle individuel important à jouer, je crois que je peux agir sur les changements climatiques ». Le changement climatique, ce n'est pas que moi, c'est une dimension partagée, c'est une dimension collective et j'ai toujours de grandes peurs et des grandes craintes. En fait, tout le défi quand on parle de changement climatique et donc on fait l'éducation au changement climatique comme dans toute problématique environnementale, c'est de ne pas verser dans la peur et de ne pas créer plus de peur qu'il n'y en avait au départ. Ce guide-là, en fait, c'est ce scénario éducatif, on l'a transformé en un guide pédagogique qui est désormais disponible sur le web et donc qui est repris par d'autres organismes d'éducation populaire. Et il fait son chemin aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que au terme de ce projet-là, et ça a donné lieu à un autre projet, on s'est aperçu que nous avions, en fonction de nos rôles respectifs et de nos expertises, partagé les expertises. C'est-à-dire que moi, comme personne spécialisée en éducation à l'environnement, j'étais restée la personne ayant cette spécialité, alors que mon collègue qui travaillait sur l'alphabétisation avait gardé cette spécialité-là. Et lorsque ce même organisme a voulu reproduire le projet, il m'a dit, tu comprends, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais parce que tu n'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, mais parce que, du coup, en matière d'environnement, je me sens toujours un novice, je me sens comme un imposteur et j'ai l'impression que je ne peux toujours pas faire de l'éducation à l'environnement alors que dans le projet, ça avait été si simple. Ce projet-là, j'ai essayé de le reproduire et là, je me suis heurtée au fait que je ne me sentais pas suffisamment solide sur les questions d'environnement. Alors, pour eux, ça nécessite une expertise, alors que finalement, on est tous un petit peu experts de quelque chose quand on parle d'environnement. Donc, c'est là où je vois que faire des petits par rapport à ce projet-là et qu'il y ait un transfert de compétences et un transfert de projets dans les milieux, on a eu un impact limité dans la mesure où on a fait avec plutôt que laisser les organismes faire les activités et être là en rappel. Donc, c'est ce qu'on développe maintenant. On développe des projets avec eux croisant des problématiques environnementales et des problématiques éducatives, donc d'alpha ou des problématiques sociales. Mais on travaille au processus de développement de projets, mais on se retire lorsque c'est la mise en action pour que les personnes s'approprient en fait, en tout cas, un sentiment de compétence et pouvoir aller de l'avant. On a un site où on voit ce qui a été produit. Et juste pour une dernière chose, c'est qu'en fait, on avait justement la visée d'action individuelle. Et lorsqu'on leur a proposé, donc dans un dernier module, de travailler sur une mise en action collective, ils ont décidé de faire des projets d'éducation de leur communauté. Donc, par toutes sortes de moyens, toutes sortes de capsules, qu'elles soient dramatiques ou humoristiques. Ces capsules ont été mises sur le site communautaire de leur municipalité régionale de comté. On va appeler ça une conurbation, enfin, on pourrait appeler ça un regroupement de communes, pour faire connaître ce qu'ils avaient fait. Et ils ont aussi organisé une fête qu'ils ont appelée communautaire de mobilisation citoyenne autour de leur projet pour faire connaître et discuter de l'éducation au changement climatique dans leur municipalité régionale de comté. Municipalité qui, justement, ils mettaient en évidence auprès des gens qui étaient là à cette fête qu'il y a un stress hydrique. Il y a des zones de chaleur importantes, il y a des manifestations qui sont perceptibles du changement climatique en Estrie et que les gens doivent s'en rendre compte. Ce n'est pas au Sahel que ça se passe, mais ça se passe bien chez nous. Donc, on voyait une photo où je suis toute contente de manifester avec ma collègue Justine sur la semaine dernière lorsqu'on a participé à la marche pour le climat. Le bilan que je fais de tout ça, c'est que ce sont des recherches très complexes du point de vue de leur développement, de leur mise en œuvre et du point de vue des retombées, en raison de l'interdisciplinarité, de l'interculturalité et du travail intergroupe. Et c'est une recherche engagée où il y a création de savoir à travers des processus de conscientisation et d'éducation activisme. Ce que je veux dire par là, c'est que les éducateurs ne sont pas neutres. Et parce qu'en fait, faire le choix d'être engagé, c'est aussi faire un choix que celui de ne pas être engagé. Ce que je veux dire par là, c'est que certains éducateurs, en milieu communautaire comme en milieu, je dirais, scolaire, ont de la misère à dire on développe des projets en éducation à l'environnement parce que je ne veux pas être activiste, je ne veux pas influencer exercer de la pression sur mes élèves ou sur mes adultes, alors que finalement, ne rien faire, c'est aussi faire un choix qui a des conséquences. Donc, c'est comme ça que je vais le mot de la fin.